Écoutez, on va conclure rapidement. La journée a été longue. Nous étions partis à la recherche des epistemic spaces dont a parlé Helga Novotny. Et donc, nous avons ouvert grand le compas d'analyse en examinant à la fois ce qui se passait dans les laboratoires et les organisations et les équipes, et en allant un peu plus loin aussi dans la caractérisation de ce que sont les chercheurs en termes de genre, en termes d'environnement de travail, de supervision, de passé de doctorant ou de post-doctorant. Ça a été fait à la fois par Jacques Mérès et par Aldo Geuna. J'avais beaucoup insisté dans mon cours sur les deux années qui se sont écoulées quand j'ai étudié le système d'enseignement supérieur et de recherche sur la relation entre enseignement et recherche. C'est un thème qui est revenu plusieurs fois dans les exposés de Stéphanie Dameron et de Thomas Durand, notamment sur le management. Il y a des arbitrages considérables que font les organisations entre la pression à la production porteuse de réputation, qui est la recherche. C'est l'instrument par excellence de la lisibilité hors les murs de ce qu'est la production de connaissances. L'enseignement est confiné dans les murs, la recherche s'évade des murs, et elle ne passe son temps qu'à s'évader des murs, elle n'a de valeur que si elle sort des murs, littéralement. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on voit là des conflits de rôle majeurs se produire et s'introduire ces leviers réputationnels, le mot est revenu à maintes reprises dans cette journée, ces leviers réputationnels qui sont immuables mais de plus en plus agissants, et surtout la science est une affaire de compétition par la réputation pour beaucoup de raisons et depuis toujours. C'est un monde terriblement inégalitaire, et simplement les moyens de la construire, de la mesurer et de la manipuler sont devenus de plus en plus puissants. Ça a été notamment le cas, l'analyse a été faite par Yves Gingras dans son exposé sur les affiliations, sur les identités et les mixtes identitaires entre individus, organisations, équipes. À travers au fond, on a un portrait non seulement de l'individu qui est réputé, mais de l'individu entrepreneur de recherche en lui-même et dans son équipe et par son équipe. Bien sûr, ce sont des mécanismes qui ont à voir avec des phénomènes morphologiques, la croissance de la population des scientifiques. On dit que la population des scientifiques augmente tous les 10 ans. Double tous les 10 ans, pardon. Elle augmente tout le temps, mais elle double tous les 10 ans. Donc c'est évidemment considérable. Et puisqu'elle double tous les 10 ans et qu'elle est par ailleurs plus mobile, ça a été souligné aussi, et qu'elle est mieux connectée, c'est vrai que cet équipement organisationnel de chaque individu devient un sujet en soi de réflexion sur la relation exacte entre ce que c'est qu'un individu et ce que c'est qu'une organisation. Il y a sans doute on peut renverser le jeu. Après tout, quelqu'un qui est chercheur est quelqu'un qui a un network of enterprise. Il a un réseau de projets, il a un réseau d'activités et donc un réseau de liens. Et ça, évidemment, ça complique beaucoup l'opposition simple entre l'individu et l'organisation. L'individu est une mini-firme ou aspire à devenir une mini-firme. S'il a du succès, c'est par là qu'il va passer. Yann Renizio nous a montré aussi pourquoi il en va ainsi. Quand on cherche des financements par projet, on cherche évidemment à épaissir son rôle. On doit procéder à toutes sortes d'arbitrages et apprendre d'autres routines, d'autres compétences, y compris la chasse au financement. On a donc un cas intéressant et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, comme on l'a toujours dit, le monde de la science, c'est un monde où on a toujours deux loyautés, en quelque sorte, une loyauté à l'égard d'une organisation ou d'un team et une loyauté à l'égard d'une communauté. Autrement dit, on a une organisation visible et des organisations invisibles. Et les relations entre les deux sont changeantes et peuvent aussi être fortement modifiées par la réputation qu'acquièrent les individus, donc modifiées de manière endogène. Ce qui est frappant aussi, c'est l'énorme stratification, non pas simplement nationale, mais maintenant internationale. Dans les enquêtes sur la mobilité qui prenaient des pays assez voisins en termes de position dans la hiérarchie des élites scientifiques, même là, on peut observer qu'on a intérêt à faire un post-doc plutôt dans le pays leader que dans le pays qui classe pourtant deux ou trois de ses meilleures universités dans les 10 premières. Donc c'est évidemment, ça vous donne la mesure de l'emboîtement des mécanismes de stratification qui caractérisent très fortement la science et qui sont devenus des objets de connaissances communes à mesure que la recherche développe, et la scientométrie par exemple, et les opérateurs de scientométrie qui vendent des services de stratification en package, si vous voulez vous améliorer, voilà comment il faut faire. On a là des instruments tout à fait étonnants de conversion de la traçabilité de la science, qui est une propriété classique du caractère public de la science, en un instrument et en un outil destiné évidemment à avoir toutes sortes d'usages sociaux et économiques. Enfin, je voudrais simplement évoquer aussi le plaisir d'avoir pu faire connaissance ou du moins d'avoir approfondi la situation dans plusieurs types de disciplines très différentes. Une des leçons d'une journée comme celle-ci et des travaux qu'on peut lire sur la science est évidemment à la fois un sentiment d'unité par le comportement, par les passions qui habitent les chercheurs, par les mécanismes d'excès de candidats par rapport à la rareté des réussites. Bref, des milieux où la cotation réputationnelle introduit des inégalités spectaculaires, mais les scientifiques sont en bonne compagnie avec bien d'autres. Et donc, on peut décrire une forme d'unité. Et en même temps, il y a une différenciation interne absolument considérable, à la fois dans les cultures, dans les moyens mobilisés, dans la taille des équipes qui sont constituées, dans les sources de financement qui sont requises. Et quand on passe de la physique aux sciences biomédicales, puis aux sciences sociales, évidemment, on a affaire à un paysage qui se modifie beaucoup, même s'il y a, de manière sous-jacente, un certain nombre de thèmes récurrents. Et le dernier mot m'a été soufflé tout à l'heure par Helga Novotny, qui était très présente pour cette journée. Il est bon d'imaginer ce que peut être la transformation des sciences en pensant au futur. Après tout, le propre des scientifiques, c'est d'incorporer le futur dans leur modèle présent aussi. Et simplement, une manière courante d'incorporer le futur, c'est simplement d'extrapoler le présent, ce qui ne va pas très loin. C'est assez confortable, mais ça fait manquer évidemment l'événement. Et une autre manière, ce serait de penser non pas en termes d'extrapolation, mais en termes d'émergence. Et donc, Helga nous a vivement enjoint à changer de registre d'analyse et dire qu'est-ce que sera le laboratoire scientifique du futur ? Eh bien, il faut peut-être le penser autrement qu'en termes d'extrapolation, en simplement corrigeant quelques rouages, ce que peut faire très bien Scopus, Elsevier et quelques autres. Après tout, voilà, ils ont maintenant tout ce qu'il faut pour nous donner des bons conseils de matching et de sélectivité. Non, ce qui est évidemment intéressant, c'est de penser autrement. Et c'est un peu plus coûteux, il faut prendre des risques, mais après tout, la recherche, c'est l'incertitude et la prise de risque. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette journée, et notamment mes chers collègues qui ont été présents toute cette journée dans cette atmosphère de séminaire studieux et productif. Merci à vous.